OK, on va continuer notre étude du livre de l'Ecclésiaste. On est rendu au chapitre 2. Aujourd'hui, on va étudier les versets 1 à 11. Ecclésiaste 2, versets 1 à 11. Alors, on va lire le passage et après, on regardera l'ensemble des détails du passage. Alors, chapitre 2, versets 1 à 11. J'ai dit à mon cœur, « Allons! » Je t'éprouverai par la joie, et tu goûteras le bonheur. Et voici, c'est encore là, une vanité. J'ai dit du rire insensé, et de la joie, à quoi sert-elle? Je résolus en mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse, et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je visse ce qu'il est bon pour les fils de l'homme, de faire sous les cieux pendant le nombre des jours de leur vie. J'exécutai de grands ouvrages. Je me bâtis des maisons, je me plantai des vignes, je me fis des jardins et des vergers, et j'y plantai des arbres à fruits de toute espèce. Je me créai des étangs pour arroser la forêt où croissaient les arbres. J'achetai des serviteurs et des servantes, et j'eus leurs enfants nés dans la maison. Je possédai des troupeaux de bœufs et de brebis, plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Je m'amassai de l'argent et de l'or, et les richesses des rois et des provinces. Je me procurai des chanteurs et des chanteuses, et les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Je devins grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Et même ma sagesse demeura avec moi. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui m'en est revenue. Puis, j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits, et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite du vin. Et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Alors, j'ai donné comme titre aujourd'hui, au sermon de ce passage-là, si vous recherchez une fondation solide pour bâtir votre vie, l'expérience par les plaisirs est futile, tourment d'esprit, et sans avantage. Alors, on se souvient que dans le chapitre 1, que Salomon avait tenté, par sa sagesse humaine, d'atteindre une compréhension globale et unifiante de toute la création et des activités des hommes, tant individuellement que collectivement. Il avait été séduit par l'idée qu'il pouvait possiblement modifier le cours des événements de la vie. Sa conclusion était d'une limpidité cristalline. Toute poursuite sans Dieu est vanité, poursuite du vent et source de tourment. Salomon avait exploré ce qui est externe. Il a dû reconnaître que Dieu a rendu tout ultimement imprévisible, incontrôlable et incompréhensible. Il va maintenant passer de l'homme de la sagesse humaine à celui de l'homme du plaisir. Il veut maintenant explorer le côté interne, soit sa propre personne, en tentant d'atteindre le bonheur par les plaisirs sous toutes ses formes. Dans le chapitre 2, Salomon va passer par trois stages dans sa poursuite et son expérience. Premier stage, la délectation dans les plaisirs sensuels, versets 1 et 2. La satisfaction, deuxièmement, la satisfaction dans les plaisirs du vin et de la table, verset 3. Et enfin, dans le grand luxe et la magnificence sous toutes ses formes, et dans des grands travaux et accomplissements terrestres, versets 4 à 10. Le verset 11 nous donne la conclusion de Salomon sur sa nouvelle recherche. insatisfaction, sentiment d'inutilité, futilité, source de peine, recherche vaine, misère, tout ça est stérile et poursuite du vent. L'Ecclésiaste nous montre de façon efficace la vérité des effets de toutes ces recherches. La recherche par l'esprit, autrement dit par sa sagesse humaine, est insatisfaisante et futile. Et la recherche au moyen du corps, donc les plaisirs terrestres, conduit au même résultat. Donc, il avait essayé par l'esprit d'avoir une idée unifiante du monde, d'essayer de comprendre, puis essayer de voir s'il ne pouvait pas modifier le cours des événements. Et à partir du moment qu'il a vu que c'était un échec par l'esprit, même avec sa très très grande sagesse, que la plus grande sagesse que Dieu a donnée à un homme sur la terre, après il a voulu se tourner vers les plaisirs du corps, à regarder s'il ne pouvait pas trouver une fondation solide pour bâtir sa vie ou pour comprendre le monde à partir des plaisirs du corps. Donc on va reviser un peu les versets 1 et 2, on va les relire. L'expérience par les plaisirs est exaltée. C'est ça qui est l'idée principale des versets 1 et 2. Alors on relit le passage. J'ai dit à mon cœur, allons, que je t'éprouve maintenant par la joie et jouis du bonheur. Mais voici, cela aussi est une vanité. J'ai dit du rire insensé et de la joie, à quoi sert-elle? Alors, on voit ici un trait de caractère de Salomon. Il est vraiment tenace et il est sérieux. Après avoir eu un échec avec son exploration par la sagesse humaine, il veut maintenant se tourner vers le côté de son corps. Donc, à quelque part, on voit que sa recherche est constante. Il est vraiment tenace puis il est vraiment extrêmement sérieux dans sa façon de faire les choses. Donc, il persiste dans sa volonté de rechercher une fondation solide pour bâtir sa vie. Il a échoué avec la sagesse humaine de comprendre l'ensemble de la création et voire même d'en modifier le cours. Il va maintenant se tourner vers les plaisirs procurés par le corps, les joies de toutes sortes, la recherche du bonheur terrestre, les festivités et le rire. Il ne tardera pas à découvrir, et là on peut aller voir dans le livre des Proverbes, au chapitre 14, dans le verset 13, qu'est-ce que les Écritures nous rappellent sur ce sujet-là. Alors, Proverbes 14, 13, ça dit « Même en riant, le cœur sera triste, et la joie finit par l'ennui. » Il devra aussi apprendre, comme on peut le lire dans le psaume 1, verset 2, qui dit « Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Et on se souvient qu'au début du verset, ça disait « Heureux l'homme ». Donc, dans le fond, on peut relire les versets en ajoutant la première partie du verset « Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Alors, on voit que la satisfaction, on ne la trouve pas par les plaisirs du corps, on la trouve par les plaisirs de l'esprit. En méditant la loi de l'Éternel, on la trouve dans le divin, autrement dit. Et un autre passage du livre des psaumes nous rappelle la même idée. Psaume 73, verset 25. Alors il dit ici, « Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. » Alors ça vient nous rappeler que si on veut trouver une source de joie, une source de satisfaction, il faut chercher du côté de Dieu lui-même et non pas chercher dans quelques choses terrestres et temporelles. La deuxième idée qu'on va regarder, c'est celle de l'expérience par les plaisirs qui est examinée. Autrement dit, à partir du verset 3 aller jusqu'au verset 10, ce qu'il va faire, c'est qu'il va énumérer toutes les choses dans lesquelles il s'est plongé corps et âme pour essayer de trouver sa satisfaction là-dedans. Alors, on va y aller un par un. Il dit dans le verset 3, c'est vraiment l'expérience des plaisirs, par les plaisirs est examinée. Donc, les plaisirs du vin et de la table. Et aussi des choses folles, que ça dit dans le verset 3. Alors, on relit le verset 3. Je résolus en mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je visse ce qu'il est bon pour les hommes de faire sous les cieux pendant le nombre des jours de leur vie. Alors, excusez-moi. Alors, vouloir expérimenter les plaisirs de l'ivresse et de la table est un chemin qu'on peut qualifier de très périlleux. S'engager délibérément dans une voie d'auto-indulgence, même avec peut-être une bonne intention, est une épreuve périlleuse, ce qui laissera des traces indélébiles dans l'âme et qui comporte de très sérieux risques de dérapage moral. Alors, on voit que vouloir s'en aller, trouver ses satisfactions dans les plaisirs de la table et du vin, et de regarder tout ce que l'homme peut faire de folie, il veut explorer ça aussi. Alors, c'est dangereux, comme ça dit, on vient de le mentionner, ça laisse des traces indélébiles dans l'âme. Alors, quelque part, si tu vas trop loin là-dedans, tu vas avoir des traces qui vont rester, qui vont abîmer ta spiritualité et ta relation avec Dieu. Et il y a un grand risque de dérapage moral parce que les Écritures nous parlent du vin comme étant quelque chose que lorsqu'on en abuse, ça produit des fruits extrêmement amers. Bon, allons voir, par exemple, dans le livre des Proverbes, au chapitre 20, au verset 1. Qui nous rappelle une vérité sur le vin. Le vin est moqueur. Les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait excès n'est pas sage. Ici, il ne dit pas qu'il a voulu vraiment faire excès, mais c'est quelque chose qu'il a voulu explorer, même si le verset dit que dans la deuxième partie ça dit, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse. Autrement dit, il a voulu aller le plus loin qu'il pouvait là-dedans, mais le Seigneur a permis qu'il garde sa sagesse quand même. Donc, il n'a probablement pas trop fait d'abus, mais il était sur une voie glissante. Alors, c'était on va regarder maintenant deux autres passages. Un, dans le livre des Proverbes également, dans le chapitre 23, les versets 20 et 21. Les dangers qu'il y a dans les excès du vin. Donc, il y a un danger d'appauvrissement. Ça dit, versets 20 et 21, « Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font des excès de viande, des viandes, car l'ivrogne et celui qui se livre à des excès s'appauvrissent et l'assoupissement fait porter des haillons. » Là, on voit les dangers qu'il y a à ça. C'est sûr que lui était extrêmement riche, mais je pense que les Écritures nous rappellent pour que nous avertir également les enfants de Dieu là-dedans. Alors, il dit que ne sois pas parmi les buveurs de vin, donc le Seigneur nous commande de ne pas faire cela. Et il dit que celui qui se livre à des excès, il finit par s'appauvrir et porter des haillons. Donc, à quelque part, c'est vraiment un grand danger. L'autre passage qui nous parle aussi, que quand quelqu'un fait des abus de vin, il y a des dérapages possibles et aussi la possibilité de développer une dépendance. Verset 29, dans le chapitre 23, aller jusqu'au verset 35, on va voir les différentes parties du passage où le Seigneur vient nous rappeler qu'est-ce que ça fait le vin, bien, du moins les excès. Parce que je ne pense pas que les versets sont en train de dire que l'être humain ou le chrétien n'a pas le droit de prendre un verre de vin à l'occasion, mais je pense qu'ici on parle des abus. Alors, verset 29, « Pour qui il est pour qui il est hélas ?» Pour qui les disputes, pour qui les plaintes, pour qui les blessures sans raison, pour qui les yeux rouges, pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du vin mêlé, ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge et qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Tes yeux se porteront sur des étrangères et ton cœur parlera d'une manière perverse. Tu seras comme un homme couché au milieu de la mer, comme un homme couché sur le sommet d'un mât. On m'a frappé, je n'ai point de mal. On m'a battu, je ne sens rien. Quand me réveillerai-je? J'en veux encore. Alors, si on fait juste une révision de l'ensemble des problèmes que une dépendance au vin ou des excès de vin peuvent apporter, on a les disputes, on a les plaintes, on a les blessures, on a par la possibilité de tomber dans les péchés sexuels, parce qu'il dit « tes yeux se porteront sur des étrangères ». Après ça, tu parleras d'une manière perverse. Quelqu'un qui abuse d'alcool ou du vin finit toujours par avoir des propos qu'il va regretter, il va aller trop loin, il va dire des bêtises, il va avoir honte le lendemain. Après ça, il dit « on m'a frappé, on m'a battu, j'ai rien senti ». Alors, ça montre que quand quelqu'un va trop loin, il se saoule et il peut tomber. Puis, l'autre affaire qui est le plus grave, c'est la fin du verset où il dit « après avoir tout connu ces expériences-là, il dit, se réveille, puis il dit, j'en veux encore. » Autrement dit, tu étais en train de dire qu'il y a un risque réel de développer une dépendance. Et à partir du moment qu'une dépendance est installée, c'est extrêmement dangereux. Donc, il y avait les plaisirs du vin et de la table, et des choses folles, il a voulu expérimenter ça le plus loin qu'il pouvait. Après ça, il y a eu le plaisir de ce qu'on pourrait appeler les grands accomplissements. Autrement dit, c'est un homme qui était sage, intelligent, riche, à craquer, parce qu'on disait qu'à cette époque-là, il était le roi le plus riche de l'Orient, de cette région-là, en tout cas. Et il dit dans le verset 4, « J'exécutai de grands ouvrages, je me bâtis des maisons, je me plantai des vignes. » Donc, on va regarder un petit peu. Quand on dit des grands ouvrages, j'ai fait des recherches sur Internet pour trouver une image que ceux qui pourront télécharger la leçon pourront voir. Une image où on voit le temple de Salomon. C'était vraiment des grandes réalisations. Alors, le premier temple, ou temple de Salomon, a été construit par le roi Salomon au 10e siècle avant Jésus-Christ. Il a été entièrement détruit par le roi babylonien Nebuchadnezzar en 587 avant Christ. Sa construction avait demandé 7 ans et 6 mois. Alors, ça nous montre qu'à quel point c'était un grand ouvrage. Quand il dit « j'ai fait des grands ouvrages ». Et il y avait eu aussi, les Écritures nous parlent du grand ouvrage, parce qu'il dit qu'il a construit des maisons. On peut prendre l'exemple de la maison qu'il s'était construite. Ça dit dans 1 Roi, chapitre 7, verset 1, « Salomon bâtit aussi sa maison, et il l'acheva toute en 13 ans. » Alors, il est en train de nous dire que ça lui a pris moins de temps pour construire le temple de Dieu que sa maison personnelle qui a pris 13 ans pour la construire. Imaginons une maison de cette époque-là, une maison royale, ça devait être dans le grand luxe, comme on dit, dans le très, très, très grand luxe. Et après, il dit qu'il s'est bâti des vignes royales. On sait que... des vignes, c'est quelque chose de très beau, très agréable, et ça produit du vin de qualité. Et il n'y a rien de plus beau qu'une vigne. Quand tu vas sur Internet, tu vois quand les vignes sont en production, là, les raisins qui pendent, c'est beau. Alors, c'était un roi qui prenait plaisir aux choses sensuelles et il a développé des vignes royales. Alors, bien sûr, des vignes ordinaires de citoyens, ça devait être très beau déjà en soi, mais une vigne royale, ça doit être avec beaucoup de soin, entretenu avec beaucoup de soin, et extrêmement riche et généreuse, on pourrait dire. Après ça, il dit dans le verset 5 qu'il a fait des travaux d'horticulture. Il dit « Je me fis des jardins et des vergers, et j'ai planté des arbres à fruits de toute espèce. » Moi, je me souviens d'avoir déjà vu des images, par exemple, en Californie, où qu'il y a, ils font des oranges, des citrons, des pamplemousses. Et je me souviens d'un homme avec qui j'ai déjà parlé, qui avait été là, lui, à partir de Québec, qui avait été jusqu'en Californie. Puis il dit qu'il avait été là en bicyclette, ce qu'on appelle le bicycle à gaz, une moto. Il était là en moto et il me parlait jusqu'à quel point c'était beau de traverser ces arbres fruitiers-là. Il dit que les odeurs, c'est extraordinaire, c'est tellement beau. Alors, il dit que c'est fait des jardins. On sait que les jardins, c'est vraiment ce qu'on pourrait appeler la marotte des rois. Tous les rois, quand tu regardes l'histoire des rois d'Angleterre, l'histoire des rois. Tous les rois d'Europe, tous les rois, tous les grands personnages qui ont été vraiment très riches, se sont tous adonnés au jardinage. Quand on parle du jardin, un jardin royal, moi je me souviens, j'ai déjà été une fois en Colombie-Britannique et on avait été visiter deux jardins publics, mais entretenu d'une façon, je ne me souviens plus du nom, là, Stanley Park, je pense, il y en a un autre, en tout cas deux, avaient visité ça, c'était extraordinairement, des arrangements avec de l'eau qui coule, avec des fleurs de toutes les variétés, et le goût, la manière dont c'était arrangé, c'était extraordinaire. Alors lui, vu qu'il était un roi, les jardins qu'il a développés, ça devait être extraordinaire. Des vergers, on parle de vergers, normalement c'est des pommes. Alors aussi, n'importe qui a déjà été dans une région, comme ici au Québec, Rougemont, peut se rendre compte jusqu'à quel point c'est beau, des pommiers, des arbres en fleurs. Et il dit aussi qu'il avait planté des arbres à fruits de toute espèce. Donc, à quelque part, dans ce climat-là, il devait y avoir à peu près tous les arbres à fruits possibles imaginables qui poussent dans ces régions-là. Et on imagine que quand tu es un roi, ça devait être extraordinairement beau et extraordinairement productif. Et alors, ça devait être quelque chose. Alors, il dit qu'il s'est adonné à ça et il a dû le faire d'une façon royale. Autrement dit, ça devait être extraordinairement beau. Alors, et aussi, il dit qu'il s'est fait des étangs. Alors, on parle de. C'est sûrement quelque chose qui a un rapport avec les travaux d'irrigation, parce que c'est des réservoirs d'eau. Il dit, je me crée des étangs pour arroser la forêt où croissaient les arbres. Alors, imaginez s'il y avait des arbres, et tout ce que ça pouvait demander d'eau. Alors, il avait sûrement organisé par des travaux d'irrigation, que toutes ces productions en horticulture reçoivent les quantités d'eau qu'ils avaient besoin. Dans les versets 7 à 8, on regarde une autre chose dans laquelle il a exploré, les versets 7 et 8, c'est vraiment la question des plaisirs sensuels, de la richesse, du luxe, et aussi des divertissements qu'on pourrait dire culturels. Alors dans le verset 7, il dit, j'ai acquis des serviteurs et des servantes. Certaines versions vont dire j'ai acheté. À cette époque-là, ça fonctionnait comme ça. J'ai acquis des serviteurs et des servantes. Donc, c'était des esclaves. J'ai eu leurs enfants nés en ma maison. Et j'ai eu plus de gros et de menu bétail que tous ceux qui ont été avant moi à Jérusalem. Alors, il y a plusieurs choses qui sont mentionnées là-dedans. C'est les domestiques. Il y a eu des domestiques en quantité royale, qu'on pourrait dire. Et même, il dit qu'il a vu leurs enfants, les enfants de ses esclaves ou de ses serviteurs. Alors, il dit aussi qu'il y a eu du bétail, du menu bétail et du gros bétail, plus que tous ceux qui avaient été avant lui à Jérusalem. Alors, on imagine, à l'époque, la richesse, ça se comptait beaucoup en termes de possession de bétail. Alors, du bétail en grande abondance. Juste pour avoir une idée, on va aller regarder deux passages du livre des rois. 1 Roi chapitre 4, versets 22 et 23. Ça va nous donner une idée de la quantité d'animaux, de petits bétails et de gros bétails qu'il avait besoin pour entretenir sa cour royale, autrement dit. Ça dit, or les villes de Salomon étaient pour chaque jour 30 corps de fleurs de farine et 60 corps de farine, 10 bœufs gras et 20 bœufs des pâturages et 100 moutons, sans les cerfs, les gazelles, les daims et les volailles engraissées. Et là, il dit, là, il faut bien remarquer ici, c'est que les vivres de Salomon, autrement dit, pour faire vivre sa cour, les gens qui vivaient dans son château avec lui, ça dit ça, il avait besoin de ça pour chaque jour. Alors on imagine comment il peut avoir combien il avait beaucoup d'animaux pour pouvoir combler ses besoins. Hey, on parle de la fleur de farine, des 10 bœufs gras et 20 bœufs de pâturage à chaque jour. Alors imagine, on peut imaginer 100 moutons. Puis après ça, il parle des cerfs, des gazelles, des daims, des volailles engraissées. Alors ça nous montre que son train de vie était extrêmement opulent et qu'il y avait beaucoup, comme ça dit, qu'il y avait beaucoup de bétail. On a aussi un roi, chapitre 8, verset 63, où ça nous dit, et Salomon immola pour le sacrifice de prospérité qu'il présenta à l'Éternel 22 000 taureaux, 120 000 brebis. Ainsi, le roi et tous les enfants d'Israël firent la dédicace dans la maison de l'Éternel. Pour une dédicace, ça veut dire une ouverture, tu fais une ouverture officielle, 22 000 taureaux, 120 000 brebis. Alors, ça nous donne ça une idée, 120 000 brebis. Pour une dédicace, il y a eu besoin de sacrifier tous ces animaux-là. Alors, on voit que quand on regarde pas uniquement le passage dans l'Ecclésiaste, mais qu'on va voir aussi dans les autres passages où on parle de la richesse de Salomon, jusqu'à quel point ces choses-là étaient réelles. Et ensuite, il nous dit qu'il s'était réservé, qu'il s'était ramassé. Dans le verset 8, il dit « Je me suis aussi amassé de l'argent et de l'or, et les richesses des rois et des provinces, je me suis procuré des chanteurs et des chanteuses, et les délices des hommes, des femmes en grand nombre. » Alors, je me souviens qu'il y a beaucoup de passages qui nous parlent que jusqu'à quel point l'or était rendu commun, même au point que l'argent n'avait plus aucune importance. Salomon a connu, quand il dit qu'il s'est accumulé de l'or et de l'argent, c'était vraiment plus que l'ensemble. Alors, à cette époque-là, quand il dit qu'il s'est procuré aussi les richesses des rois, on sait que les rois de l'époque possédaient, par exemple, de l'ivoire, des bijoux d'une grande beauté et de grand prix. Ils avaient également des parfums rares, des épices, des textiles, autrement dit, leurs habits avec les choses qu'ils étaient vêtus, c'était extraordinairement. Quand le Seigneur Jésus dit « Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme une fleur », alors Salomon, dans toute sa gloire, j'imagine que ça, la manière dont il était vêtu, ça devait être extraordinairement riche. Alors, c'était des personnes qui avaient des pierres précieuses, qui avaient des métaux précieux, Alors, quand il dit que c'est procuré les richesses des rois, c'est tout ce que les rois de l'époque possédaient, il devait en avoir une quantité phénoménale lui-même. Ensuite, il dit qu'il a expérimenté les divertissements culturels, qu'on pourrait dire. Les chanteurs, les chanteuses, les musiciens. Et on sait aussi qu'il avait, comme il dit, qu'il s'est procuré les délices des hommes, un harem bien garni. Si on va voir, par exemple, dans 1 Roi, chapitre 11, versets 1 à 4, et aussi versets 9 et 10, on va relire le passage, ça va nous donner une idée quand il dit qu'il s'est procuré les délices des hommes, autrement dit, il parlait des femmes. Verset 1 Roi, chapitre 11, versets 1 à 4. et ensuite on verra 9 et 10. 1 à 4. Or, le roi Salomon aima plusieurs femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Iduméennes, des Sidoniennes et des Éthiennes. D'entre les nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles et elles ne viendront point chez vous. Certainement, elles détourneraient votre cœur pour suivre leur Dieu. Salomon s'attacha à ces nations par l'amour. Il eut donc pour femme 700 princesses et 300 concubines. Presque incroyable. 1000 femmes. Et ces femmes détournèrent son cœur. Et il arriva, au temps de la vieillesse de Salomon, que ces femmes détournèrent son cœur auprès d'autres dieux. Et son cœur ne fut pas intègre avec l'Éternel son Dieu, comme le cœur de David son père. Dans le verset 9 et 10, on dit aussi, « Et l'Éternel fut indigné contre Salomon, parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu deux fois. Et il lui avait même donné ce commandement express de ne point suivre d'autres dieux. Mais il n'observa point ce que l'Éternel lui avait commandé. » Donc, on voit les plaisirs sensuels de la richesse, du luxe et du divertissement culturel. Il avait exploré de façon très généreuse envers lui-même toutes ces choses-là. Dans le verset 9 et 10, on voit aussi les plaisirs qu'on pourrait qualifier de l'opulence insurpassée. L'opulence, c'est vraiment la quantité de richesse qui déborde, autrement dit. Mais c'était insurpassé, il dit lui-même. Et aussi de l'absence de privation. Alors, on relit les deux versets, 9 et 10, et ça nous donne une idée. Il dit, « Je me suis agrandi, et je me suis accru plus que tous ceux qui ont été avant moi à Jérusalem. Et même ma sagesse est demeurée avec moi. Enfin, je n'ai rien refusé à mes yeux de tout ce qu'ils ont désiré, et je n'ai pas épargné aucune joie à mon cœur. Car mon cœur s'est réjoui de tout mon travail, et c'est la part que j'ai eue de tout mon travail. » Quand on regarde cette histoire de vouloir jouir uniquement des biens matériels, le Nouveau Testament, bien entendu, nous met en garde contre les dangers et les pièges de la richesse. Il nous avertit, le Nouveau Testament, quant à la façon de la gérer, la richesse, si Dieu nous l'accorde. Alors, on va aller dans 1 Timothée, chapitre 6, versets 6 à 10, où on va voir que le Seigneur donne à la fois un conseil et un avertissement. Alors, il dit, « Or, c'est un grand gain que la piété avec le contentement d'esprit. » Car nous n'avons rien apporté dans ce monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Ainsi, pourvu que nous ayons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation et le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont détournés de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans les plus grandes douleurs. Donc, dans 1 Timothée, on a vraiment 6 à 10, chapitre 6, un conseil et un avertissement. Dans le même chapitre, juste un peu plus loin, les versets 17 à 19, où on a encore un conseil de Dieu, de faire confiance à Dieu et de s'accumuler un trésor, mais dans le ciel. Verset 17. Recommande aux riches du présent siècle de n'être point orgueilleux, de ne point mettre leur confiance dans l'incertitude des richesses, mais dans le Dieu vivant qui nous donne toutes choses abondamment pour en jouir. De faire le bien, d'être riche en bonnes œuvres, prompt à donner faisant part de leurs biens, s'amassant ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un bon fond afin d'obtenir la fin de la vie éternelle. Autrement dit, le Seigneur dit, si le Seigneur permet par sa providence que tu connaisses cet état de la richesse, ben, il te donne des conseils extrêmement précieux. Ici, premièrement, de ne pas mettre ta confiance à ces choses-là. Ensuite, d'être riche en bonnes œuvres, puis de faire le bien et de te ramasser des trésors dans le ciel. Parce que, alors, on voit qu'il nous donne, il nous dit un avertissement de ne pas courir après l'argent dans 6 à 10. Puis dans 17 à 19, il nous dit de faire confiance à Dieu et de cumuler son trésor dans le ciel et non pas dans les choses matérielles. Chose qu'on voit dans le dernier verset, dans le verset 11, on voit l'expérience par les plaisirs qui est exposée. Exposée dans le sens qu'après avoir tout examiné, vécu, expérimenté, toutes ces choses-là, il arrive à une conclusion. Et vous allez voir que la conclusion ressemble beaucoup à la conclusion du chapitre 1, où il avait cherché à explorer les choses par la sagesse humaine. Maintenant, il essaye par les plaisirs sensuels, le plaisir du corps. Et voici ce qu'il dit dans le verset 11. « Et j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et le travail auquel je m'étais livré pour les faire. Et voici, tout est vanité et tourment d'esprit. Et il n'y a aucun avantage sous le soleil. » Bien sûr, ici, quand il dit que ce n'est aucun avantage dans le sens de trouver une base pour construire sa vie, le texte ne dit pas que ça n'a aucun avantage. Si tu te fais une vigne, un jardin, toutes les choses qu'il a mentionnées, de construire une maison, quand il dit aucun avantage, je ne pense pas qu'il veut dire que l'être humain, lorsqu'il se dirige dans ces choses-là, ne retire rien. C'est pour ça que le verset veut dire. Le verset veut dire qu'il n'y a aucun avantage au point de vue spirituel de mettre tous les efforts et toutes les énergies à essayer de te satisfaire par ce moyen-là. Alors, Salomon a richement expérimenté toutes ces choses et il a profondément médité sur ce qu'elles apportent à l'homme dans sa volonté de trouver un fondement solide pour bâtir sa vie. Salomon conclut en identifiant 3 résultats ou conséquences de cette poursuite effrénée par les plaisirs du corps. Le résultat de la futilité, Salomon réalise avec beaucoup de lucidité que sa poursuite ne lui a pas apporté ce qu'il avait anticipé. Il est déçu et il s'aperçoit qu'il a beaucoup surestimé les promesses de cette avenue. Autre résultat ou conséquence, c'est le résultat du tourment d'esprit. Ce qui devait lui procurer du plaisir, il en a éprouvé, mais pas dans la mesure qu'il s'attendait. La douleur, la honte, le sentiment d'échec lui amènent surtout des souffrances. Le tourment d'esprit. Et la troisième, c'est le résultat du peu de profitabilité. Il constate qu'il a poursuivi du vent, que sa tentative a été vaine et stérile. Alors, quelles sont les applications qu'on peut tirer de cette très, très brève étude, de ce beau passage? La première, c'est la véritable joie ne se trouve qu'en Dieu. Alors, on voit toutes les avenues qu'il a explorées et il nous dit que tout cela est vanité, poursuite du vent et que ça n'amène juste que du malheur, mais de la déception. Et Jean, dans l'évangile de Jean, chapitre 4, verset 14, le Seigneur nous montre là où on peut trouver la joie véritable, la joie durable, la joie même éternelle. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Excusez. Mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira pour la vie éternelle. Là, il est en train de parler du salut, de ce que Dieu nous donne. Ça va vraiment nous donner, ça va nous donner satisfaction. Alors, comme ça dit, je n'aurai plus jamais soif. Il parle pas de la soif physique, s'il parle de la soif spirituelle. Deuxième application. Les plaisirs procurés par le corps sont permis de Dieu. Et lorsqu'ils sont utilisés dans les limites prescrites par les Saintes Écritures, on se doit de faire attention de ne pas en faire des idoles et de ne vivre que pour les satisfaire. Mais le Seigneur nous dit qu'on peut, il nous a donné ces choses-là pour que nous en jouissions. Mais le problème, c'est quand il y a une jouissance qui est excessive, que l'homme a tous ses efforts, toutes ces choses là-dedans, il se trompe. Et la troisième et dernière application, implorons le Seigneur de nous donner la grâce du contentement, surtout en ces périodes où le matérialisme est si avancé dans la société, de nous donner le contentement, que ça nous dit dans les Écritures que si on a nos besoins fondamentaux sont comblés, on n'a pas à aller plus loin. Et c'est ça le contentement. Aujourd'hui, on rencontre très peu de monde qui, même dans le milieu chrétien, qui ont le véritable contentement tel que défini par les Écritures. Alors que l'Éternel soit béni, loué et adoré éternellement. Amen.